Técombe, celui de génie. Chapitre 1. Si nous leur disions bonsoir en passant. Comme vous voudrez, ma tante. Il y a longtemps que tu ne les as vues, ces trois sœurs. Tu trouveras du nouveau chez elles. Leur père est mort l'an dernier, et comme elles ne pouvaient conduire à elles seules leur train de campagne, l'aînée, Caroline, s'est décidée à épouser Abdias. Tu te souviens d'Abdias ? Leur domestique, un grand maigre ? Parfaitement, un brave homme, bon travailleur, mais enfin leur domestique, ce qui a fait trotter les langues. J'ai dit franchement à Caroline, « Ma chère, vous vous déclassez, mais cela vous regarde et vous en porterez les conséquences. » Ça fait qu'alors ? Assurément, ma tante. Madame Arnaudin et son neveu, Sully Arnaudin, faisaient ensemble leur promenade d'après-souper dans le joli chemin qui conduit à la ferme des Verdans, entre une haie d'églantiers et une vaste prairie découverte, d'où le regard glissait vers de bleus au-delà. Pourquoi, au lieu de cette plume, n'est-ce pas un pinceau et un pinceau de loisir qui soit chargé de peindre les délicates merveilles de la haie fleurie, qui puisse s'attarder à chaque rameau pendant, à chaque bouton souriant sous une feuille, il rendrait l'exquise transparence des pétales que le soleil traverse, le contour charmant de ces coupes faites pour les oiseaux, et sur l'épaisseur du feuillage, les taches roses de leurs corolles groupées. Il traduirait les nuances, pour ainsi dire expressives, de ce rose, éclatant et joyeux dans l'églantine qui s'entr'ouvre, puis, comme alangui de passion, dans celle qui a vécu tout un jour d'été. Il nous montrerait sur l'herbe, au pied des buissons, ces pâles jonchées éparses qui, par moments, s'envolent comme pour chercher à se réunir. Surtout, il nous peindrait les profondeurs vertes de la haie, le dessin léger des branches du sommet sur un ciel encore plein de chaudes lumières, et nous verrions devant nous la gloire de juin fleuri et nous sentirions quelque émotion attendrie pour cette foison de beauté. L'homme timide et taciturne qui se promenait ce jour-là le long des églantiers avait coutume de renfermer ses émotions en lui-même. Il regardait, se sentait vaguement heureux, sans savoir pourquoi, et ne disait rien. « Es-tu triste, Sully ? À quoi penses-tu » demanda Madame Arnaudin. « Je me disais, vous allez me trouver absurde, » fit-il avec un sourire un peu embarrassé, « je me disais que tout ce rose vous donne envie de tomber amoureux. » Madame Arnaudin était superstitieuse. Elle se baissa, ramassa une petite pierre et la jeta par-dessus son épaule gauche. « Que le mauvais sort s'éloigne de nous » s'écria-t-elle. « Un malheur n'aurait qu'à t'entendre. » « Ce serait donc un malheur que de tomber amoureux ?»« Oui, car on s'aime toujours en quinconce, comme disait mon pauvre mari. Tu sais, ces arbres plantés en avenue et disposés de façon à n'avoir pas de vis-à-vis, si bien que l'ombre de l'un ne rencontre jamais le tronc de l'autre, mais tombe à côté. C'est ainsi qu'on s'aime en général, on tombe à côté. Cependant, il y a des cas où les cœurs se rencontrent. » Il rougit aussitôt de s'être embarqué dans un discours sentimental. « Eh, qu'en sais-tu, mon garçon? Qu'en sais-tu? À ce propos, tu n'as jamais été amoureux ?»« Pas que je sache. Si tu l'avais été, tu le saurais. » « Cela ne ressemble à rien d'autre. »« Eh bien, Sully, écoute-moi. Tu as 34 ans. Si tu prenais la rougeole, peut-être que tu en mourrais. Ces petites maladies d'enfant tuent parfois les hommes de ton âge. Ainsi, prends garde de ne pas tomber amoureux. » Il se contenta de hausser les épaules avec un demi-sourire pas trop gai qui signifiait « Je n'ai rien à craindre de ce côté-là. » C'est qu'il était gauche et que toutes les femmes, jeunes ou vieilles, lui faisaient peur. Il ne leur parlait presque jamais, craignant leur moquerie. Sa tante même l'intimidait prodigieusement. Il s'imaginait que, pour parler aux femmes, il faut une langue spéciale, un esprit agile et cambriolant pour suivre le leur, qui ne procède, pensait-il, que par sauts imprévus. Il les croyait toutes railleuses. Il ne se disait point que les jeunes filles rient souvent par gaieté pure et sans savoir pourquoi. L'ombre d'un sourire le mettait en fuite, convaincu que son nez, ou son habit, ou sa tournure, avait paru ridicule. Cependant, au rebours d'autres timides, qui, à distance, et pour se venger de leur peur, médisent du sexe féminin, il n'en voulait qu'à son incurable gaucherie, des supplices qu'elle lui faisait endurer. Quand il songeait au mariage, c'était avec un petit tressaillement de regret, suivi d'un petit frisson de terreur. À la seule idée de la demande, il sentait des ailes lui pousser pour s'enfuir. Mais si quelque ami, plein d'abnégation, avait pu se charger à sa place des préliminaires, et même de la première semaine des fiançailles, Sully Arnaudin eût été heureux d'entrer après lui dans le champ ainsi débarrassé de ses plus grosses broussailles. Il était blond, cela va de soi. Les bruns, quand ils sont timides, ne le sont point de cette manière résignée. Ils ont des brusqueries, des sorties farouches, ils donnent dans la misanthropie. Par sa démarche, ses gestes et sa voix, Sully Arnaudin révélait des habitudes de douceur et de patience. Ses honnêtes yeux gris clair étaient un peu tristes, ses traits un peu effacés, sa barbe avait des teintes inégales qui allaient du blond paille à l'incolore, mais la physionomie portait cependant une marque personnelle. Sous l'indécision des lignes, il y avait quelque chose de latent, de silencieux, de concentré qui semblait attendre. Si l'observateur, après avoir étudié et résumé ainsi cette figure, en avait référé à Madame Arnaudin, qui n'était point sotte et s'entendait à déchiffrer les caractères, elle lui aurait répondu « Vous devinez juste, mon neveu n'est peut-être pas un aigle, mais il sait attendre. Je ne désespère de rien pour lui. »